Nous allons utiliser un schéma que nous avons réadapté avec Karine Millon-Fauré à partir des travaux de Prediger, Claxton et Bose. Notamment, on le retrouvera dans un article de 2016. Et nous l'avons réadapté en empruntant aussi la notion de registre de Raymond Duval. Alors, cela donne le schéma que vous pouvez voir et qui nous sert de grille d'observation pour observer la plurisémioticité dans l'activité mathématique. Alors ce schéma, on va vous le présenter rapidement avant de l'utiliser. Ce schéma permet de représenter ces registres plurisémiotiques qui sont complémentaires puisqu'ils vont être mobilisés parfois simultanément, parfois en alternance dans l'activité de classe. Alors par exemple, imaginons qu'un enseignant donne un problème de mathématiques à un élève, et bien celui-ci va avoir plusieurs façons de restituer sa réponse. Façons qui peuvent être complémentaires. Il peut utiliser le registre matériel, par exemple l'élève va manipuler. Il peut utiliser le registre symbolique numérique et donc représenter sa réponse sous forme de calcul, ou encore le registre symbolique algébrique lorsqu'il utilise des inconnus. Et puis le registre graphique va être aussi utilisé lorsque l'élève va représenter à travers des graphiques. Et bien entendu, pendant toute l'activité, très fréquemment, est mobilisé le registre verbal sur lequel nous allons mener aussi une analyse pour l'extrait avec Youssef. Et le registre verbal, c'est là où se jouent les interactions, la conceptualisation et la façon dont l'élève, petit à petit, va s'approprier de façon concomitante à la fois le langage et les notions mathématiques.
On a effectivement plusieurs registres et on va voir que les objets mathématiques vont être utilisés tantôt dans un registre, tantôt dans un autre registre. Et toute la difficulté, c'est que les règles ne sont pas exactement les mêmes d'un registre à l'autre. Alors on va voir ça sur des exemples. Alors on va commencer par prendre comme exemple les signes plus et moins. Alors ces signes, ça peut représenter soit des signes opératoires, les signes de l'addition et de la soustraction, soit la marque des nombres relatifs, pour les nombres positifs ou négatifs. Et c'est vraiment difficile pour les élèves de distinguer ces deux statuts. Et on va voir que les règles par rapport à ça ne sont pas tout à fait les mêmes dans chaque registre. Alors, on va regarder par exemple le registre verbal. Alors, si on regarde dans le registre verbal, en fait, on n'a pas vraiment de distinction entre le signe opératoire ou la marque du nombre relatif. Si je dis, par exemple, plus 2, je ne sais pas, a priori, si je parle du nombre positif 2 ou alors de l'opération ajouter 2. Ça se dit exactement de la même manière. On pourra noter d'ailleurs à ce propos que dans le registre verbal, le mot, l'adverbe « plus » va pouvoir aussi être utilisé à d'autres occasions, mettons « il est plus grand » ou alors « le plus grand nombre ». Donc on voit à ce propos que ce mot peut avoir plusieurs sens, plusieurs utilisations, ce qui va encore compliquer les choses. Voilà, donc là, dans le registre verbal, il n'y a pas de distinction entre le signe opératoire et le signe du nombre. Dans certaines langues, il y a une distinction. Par exemple, en anglais. En anglais, on va dire « minus 10 » pour dire « on enlève 10 » et « negative 10 » pour dire « moins 10 », le nombre négatif. Donc là, il y a une distinction. En français, il n'y est pas. Qu'est-ce qui se passe dans le registre symbolique numérique? Eh bien, là non plus, a priori, pas de distinction. Le signe « plus » peut représenter aussi bien le signe opératoire que la marque des nombres positifs. Et par conséquent, les élèves, a priori, ne vont pas les distinguer. Alors, on peut noter que dans l'extrait qu'on a sous les yeux avec Youssef, on peut remarquer qu'il a entouré certains signes opératoires, notamment les signes « moins ». Lorsque ce sont des signes opératoires, il les a entourés. Donc on peut supposer qu'il était en train de recopier le tableau et donc que c'était quelque chose que l'enseignante avait fait au tableau. Mais en fait, ce fait d'entourer les signes « moins » lorsque ce sont des soustractions, c'est tout simplement parce que l'enseignante cherche à utiliser la règle correspondant à la soustraction de nombres relatifs. Elle veut en fait utiliser le fait que « enlever » un nombre relatif, ça revient à ajouter son opposé. Et c'est pour ça qu'elle fait entourer les signes moins qui sont des signes opératoires, mais par contre, pour le signe plus, elle ne fait rien. Donc, on n'a pas de distinction entre le signe plus opératoire et le signe plus en tant que marque des nombres positifs. On peut aussi remarquer que sur la feuille de Youssef, il y a un signe plus qui est effacé devant le nombre 2. Donc, lorsqu'il était comme marque de nombre positif, il l'a effacé. Et effectivement, hein, dans le registre numérique, on a la possibilité d'enlever le signe plus hein, de la marque des positifs. Ce n'est pas obligé, c'est une possibilité. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que Youssef l'enlève devant le 2 et pas devant le 20 qui était juste à côté. En fait, on peut penser que c'est parce que l'enseignante veut garder le signe plus du plus 20 pour ensuite pouvoir, lorsqu'elle enlève plus 20, elle va pouvoir ajouter l'opposé. Donc, elle va transformer le plus 20 en moins 20. Donc, c'est pour ça qu'elle veut garder ce signe plus. Voilà. Mais ça, cette particularité, cette différence qui fait qu'elle enlève le plus devant le plus 2 et pas devant le plus 20, ça c'est quelque chose que les élèves n'ont certainement pas perçu. Hein. Donc ça va être une difficulté aussi supplémentaire. Hein. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le registre matériel ? Donc avec la calculatrice. Eh bien là, on voit qu'avec la calculatrice, il va y avoir une difficulté qui se pose parce que la plupart des calculatrices n'ont pas la même touche pour indiquer le signe moins lorsqu'il s'agit d'une soustraction et le signe moins lorsqu'il s'agit de la marque du nombre négatif. Donc il faut que les élèves sachent si le moins qu'ils veulent taper est la marque d'une opération ou de nombre relatif, alors que cette distinction n'apparaît pas ni dans le registre verbal ni dans le registre numérique. Donc c'est quand même une difficulté pour eux. Alors on a l'impression que Youssef est au courant, hein, sait effectivement repérer ce type de choses puisqu'il tape correctement le calcul que l'on voit taper, hein, il met bien la bonne touche pour indiquer la marque des signes négatifs. Et maintenant pour les signes, pour le signe plus devant les nombres positifs, comment ça se passe pour les calculatrices ? Eh bien habituellement, il ne faut pas mettre le signe plus devant les nombres positifs sur la calculatrice, sous peine de causer une erreur. Et d'ailleurs, on voit que si Youssef à un moment a une erreur avec sa calculatrice, c'est parce qu'il a mis le signe plus devant le nombre positif. Donc il ne faut surtout pas mettre ce signe plus. Donc là, on a une différence importante par rapport aux deux autres registres où on pouvait les garder. Là, sur le registre matériel, on ne peut plus. Donc ça va être à l'élève de faire cette erreur-là lorsqu'il va passer d'un registre à l'autre. Voilà, donc ça montre un petit peu les difficultés qu'il peut y avoir pour passer d'un registre à l'autre, ce que l'élève est obligé de faire constamment. A priori, c'est rarement expliqué en cours, donc d'ailleurs on peut se demander comment Youssef était au courant pour cette touche moins de la calculatrice, hein, voilà. Et donc si ce n'est pas expliqué en cours, il va falloir que ça soit à la charge de l'élève de découvrir cette différence entre les registres. Alors après, un deuxième et dernier exemple qui concerne les parenthèses. Là aussi, si on regarde l'objet parenthèse, on va voir que les règles ne sont pas exactement les mêmes dans les différents registres. Alors par exemple, si je regarde dans le registre numérique, il faut absolument mettre des parenthèses autour des nombres relatifs lorsqu'ils sont précédés par un signe opératoire. D'ailleurs, à un moment, Youssef les oublie et l'enseignante le lui rappelle, voilà, comme étant une règle connue que tout le monde doit suivre. Donc, c'est une des règles qui s'impose dans ce registre-là. Lorsqu'on regarde dans le registre verbal, eh bien, ces parenthèses-là, spontanément, elles disparaissent. Lorsqu'on lit une expression numérique où il y a des parenthèses qui entourent un nombre relatif, on ne les prononce pas, on ne les cite pas. Et ça, c'est quelque chose qui est passé sous silence, enfin qui ne se remarque même pas spontanément. L'enseignante de l'extrait et même l'élève qui va lire l'expression ne prononce pas ces signes-là, quoi. Et si maintenant on regarde sur la calculatrice, bien sur la calculatrice, a priori, il faut les mettre, mis à part des cas particuliers où on va avoir la possibilité d'omettre certaines parenthèses lorsqu'elles sont, je dirais, évidentes. On va pouvoir omettre une parenthèse ouvrante lorsqu'elle se trouve en début d'expression ou alors ou mettre une parenthèse fermante lorsqu'elle se trouve en fin d'expression, parce que finalement, elle ne peut pas être ailleurs, donc la calculatrice comprend. Donc ça va être quelque chose qui est possible. Et c'est pour ça que lorsque Youssef tape son expression, il manque une parenthèse, mais en fait, la calculatrice comprend, c'est pas ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Voilà, donc ça aussi, donc une règle particulière due au registre matériel qui n'apparaît pas dans les deux autres registres et qui est à la charge des élèves pour l'acquérir. Voilà, donc ça permet de voir qu'on a des choses comme ça différentes d'un registre à l'autre et lorsque l'élève va avoir besoin de manipuler un même objet dans les différents registres, eh bien il faut qu'il s'adapte à ces différences de règles.
On va approfondir et regarder un peu plus attentivement le registre verbal. Alors sur le registre verbal, on fait un petit pas de côté pour revenir sur le schéma de façon à l'expliciter. Sur le registre verbal, vous voyez qu'il y a un axe horizontal. Et l'axe horizontal, c'est la mise en relation des langues premières, langues souvent de première socialisation, mais ça peut être aussi les autres langues du répertoire linguistique du jeune, et la langue seconde, qui, dans le cas qui nous intéresse, est le français, pour l'élève allophone qui est Youssef, et donc qui est scolarisé maintenant avec la langue française. Alors, cette mise en relation, elle renvoie au concept, la théorie de l'interdépendance des langues. L'interdépendance des langues, c'est un concept qui a été développé par Jim Cummins, il y a un article en 1979, et puis lui-même s'appuie sur des travaux de Scudnap Kangas légèrement antérieurs, qui met en évidence qu'il y a des liens entre les langues dans les compétences langagières des individus, et il y a donc un soubassement linguistique et des mises en relation, une interdépendance entre les langues. Et ça se voit d'ailleurs, puisque les compétences que l'élève maîtrise dans sa langue première, eh bien, elle va plus facilement les maîtriser en langue seconde. Donc il va y avoir des affaires de relations et de corrélations dans le développement des compétences langagières. Donc ça va être plus facile s'il a déjà ce package sur sa langue première pour réussir en langue française. Alors ce va-et-vient implique une circulation. Et ça, c'est incontournable pour l'appropriation d'une langue seconde, d'une langue nouvelle. Dans tous les cas, on s'appuie sur nos langues, on s'appuie sur notre répertoire linguistique. Et il va y avoir donc des transferts de compétences. Ceci dit, ça n'est pas toujours visible en classe, parce qu'on le voit là, on ne le voit pas, c'est invisibilisé dans la classe. Avec Camille, l'enseignante, elle fait son cours en langue française, Youssef qui répond en français. À aucun moment, on voit émerger la langue de l'enfant. Et pourtant, certainement cognitivement, lui, il y a toute une gymnastique des exercices cognitifs pour pouvoir passer de ce qu'il sait dans sa langue première, ou dans la langue dans laquelle il a été scolarisé antérieurement, et avec la langue française. Et ça, c'est invisibilisé. C'est ce que moi, j'appelle des compétences dormantes. Il y a d'autres chercheurs, comme Emmanuel Le Pichon-Forsman, qui travaille à l'Université de Toronto. Elle parle de submersion, parce qu'en fait, ce sont des compétences qui sont très riches, qui peuvent être des leviers pour l'apprentissage, et qui finalement sont mis en toute discrétion dans l'activité de classe, et certains enfants ne vont pas s'autoriser à mobiliser leur langue première. Ce qui peut être parfois dommageable, parce que des fois, ils ont l'impression de ne pas savoir. Et là, on voit Youssef, à certains moments, il est complètement déstabilisé. Il est déstabilisé entre le 30, le 13, le 3. Enfin, il perd un peu ses moyens, il est en insécurité. Lorsqu'elle lui pose des calculs très simples, il ne sait plus quoi répondre. Mais c'est qu'il y a aussi toute cette gymnastique où il doit retrouver 13, à quoi ça correspond dans sa langue première, comment on le dit que ce n'est pas 30, ce n'est pas 13 ou ce n'est pas 3, quel point signifie ça correspond. Signifie. Donc il y a toute cette gymnastique qui prend du temps. Et c'est nécessaire. Alors, c'est souvent constructif, même s'il peut y avoir des erreurs interlinguales entre les différentes langues. Dans d'autres situations, ici, justement, il n'y a pas cette présence de la langue, mais dans d'autres situations, il pourrait y avoir des alternances codiques, c'est-à-dire que l'élève mobilise sa langue première pour pouvoir s'exprimer, soit parce que ça permet de suppléer le manque du vocabulaire dans langue française, de la langue seconde, soit parce qu'aussi ça le rassure. Par exemple, lorsqu'on lui fait l'entretien, il y a sa mère. Sa mère lui redemande en langue première, est-ce que tu as compris, etc. Elle lui explique, il comprend tout de suite. Alors, est-il que ça l'a aidé, mais peut-être aussi que c'est ça le rassure, parce qu'il l'a déjà fait cet exercice, donc il y a des choses qu'il avait déjà faites. mais le fait de repasser dans cette langue, ça permet des fois simplement de d'être entier dans son individualité plurilingue et de pouvoir rentrer dans les activités. Donc il y a aussi dans le recours dans la langue première une dimension qui peut être émotionnelle et identitaire. Et ça, on le voit par exemple dans les travaux de Sophia Stratila-Klein, qui a fait une enquête auprès de beaucoup de jeunes en les questionnant sur leur répertoire linguistique, sur leur autobiographie langagière, et pour voir justement quel impact ça avait dans leur apprentissage. Ou encore les travaux de Delphine Kietabedikofer, qui travaille justement sur cette dimension émotionnelle liée au langage. Et puis d'autres, notamment les travaux de Nathalie Auger, et puis, qui est très connue là-dessus, et Véronique Miguel Adissou. Si on envisage l'axe vertical, alors il y a plusieurs façons de dire les choses, une façon usuelle, une façon telle qu'elle est recevable à l'école, et puis une façon un peu plus technique, ici mathématique. Christophe H, pour les mathématiques, lui, va parler de pratique langagière des mathématiciens. Et effectivement, les élèves sont amenés à manipuler le langage pour pouvoir résoudre des activités, pour s'approprier les notions. Et de ce fait, ils vont aussi s'approprier une façon de dire les mathématiques qui leur permet aussi de se les représenter, de conceptualiser les notions. Et pour les jeunes, dans le cours de cet apprentissage, ça ne vient pas... facilement. Il y a tout un travail, une gymnastique qui est menée avec l'enseignant pour faire travailler sur ces niveaux de formulation. Et donc il va y avoir des niveaux de formulation, ça c'est aussi Gérard Vignier qui travaille beaucoup sur français langue seconde, qui a théorisé et qui a donné des exemples sur la façon de travailler sur les niveaux de formulation. Ces niveaux de formulation permettent justement de faire basculer sur un langage de niveau courant, à quelque chose qui est plus académique et aussi plus précis sur le plan de la notion mathématique. Alors là aussi, on peut renvoyer encore aux travaux de Jim Cummins sur les Basic Interpersonal Communicative Skills, les BICS. Donc ce sont les compétences communicatives de base qu'on mobilise pendant les communications ordinaires. Et puis les Cognitive Academic Language Proficiency, donc les compétences attendues pour travailler sur les disciplines. Il va y avoir des variations sociolinguistiques aussi, pour à la fois dans le travail que va faire l'élève avec l'accompagnement du professeur et dans l'activité mathématique. Et puis il y a aussi des variations sociolinguistiques qui apparaissent dans le discours même du professeur. Des fois de façon inconsciente, et pour ça Karine elle va en parler, puisque de temps en temps, le professeur, dans un discours qui est plus particulièrement académique, va introduire des termes usuels ou courants. Je vais juste caractériser de façon un peu générale la situation interactionnelle de cette classe avec Camille, les élèves et donc Youssef. Ici, dans ce registre verbal, qui est prédominant, puisque l'activité se mène en accompagnement et dans la langue de façon constante, il y a une circulation forte entre l'oral et l'écrit. Ce qu'on peut appeler une forte dimension oralographique. C'est une expression de Bouchard qui montre que la parole est tournée vers l'écrit. On parle sur ce qu'on écrit et puis ce qu'on écrit, on va le commenter. Donc tout est tourné, le regard, à la fois le regard des élèves, on les voit, ils sont orientés vers le tableau, mais aussi vers leur polycopié. Et donc tout est tourné vers de l'écrit. Et ça va régir un petit peu des contraintes dans l'organisation de la communication. Alors, moi, je dirais que la communication au niveau canalphatique, elle va avoir quelques ruptures. Pourquoi ? Parce que l'enseignant va parler, mais contrairement à une interaction où on regarde l'autre, où on réagit par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il a, son attitude et sa parole, ici, l'enseignante, Camille, comme tous les profs, elle écrit au tableau et montre son dos. Et donc, forcément, ça rompt cette communication. Et qui plus est, les élèves sont dans l'urgence de l'activité, ils doivent écrire. Et pour un élève allophone, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il manque les informations liées au déictique. Lorsqu'elle dit « ici », il ne peut pas voir ce que désigne ce « ici ». Alors, sur cette communication, sur le plan énonciatif, Camille interpelle peu les élèves. Elle va beaucoup utiliser le « on », mais ça, c'est caractéristique de la plupart, de beaucoup de séances d'activité. Des « on » qui ont plusieurs valeurs. Parfois, c'est un « nous », parfois, c'est un « tu ». Elle va dire « on corrige », c'est « vous corrigez ». Et puis, « on a écrit », mais c'est « tu as écrit ». Donc là aussi, au niveau de la communication, ça peut diluer des fois et l'identification de qui est le destinataire. Est-ce que c'est moi qui suis concernée? Est-ce que c'est la classe ou est-ce que c'est une information généralisée comme on calcule en faisant ça, ce qui, lorsqu'on est, on énonce une règle. Alors, ce qui fait que ces caractéristiques de cette communication tournée vers l'écrit dans les conditions qui sont présentées dans la vidéo amène à une certaine déperdition de l'information, notamment pour Youssef. Et pour Youssef, d'autant plus qu'il est installé au fond de la salle. Donc, un élève allophone a besoin de s'appuyer sur la multimodalité de la communication, les gestes, le visuel, les expressions. Et en étant en fond de la salle, là, forcément, ça augmente encore plus ce phénomène de déperdition. Une des particularités des interactions de classe, c'est que l'enseignant, il a son idiolecte. Alors, idiolecte, c'est-à-dire, c'est sa façon personnelle de s'exprimer. Et ça, comme tout un chacun, on a un accent, on a une façon de présenter les choses, une façon de structurer. Et cela peut compliquer, des fois, la réception par un apprenant qui est allophone et qui, lui, petit à petit, développe des compétences linguistiques, phonologiques, syntaxiques, etc. Donc, je vais en mettre quelques exemples par rapport à Camille, mais comme tout un chacun. Par exemple, lorsqu'elle va dire « je vais mettre un exemple », en fait, quand elle prononce, elle dit « je vais ». Et « je vais », forcément, au niveau de la ligne phonologique, ce n'est pas la même chose. Pour un apprenant qui est allophone, c'est plus compliqué pour lui de dissocier, en fait, les mots, les isoler pour comprendre le sens. Comme quand elle veut dire « un petit peu », elle dit « un petit peu ». Et donc, pour l'élève, il faut qu'il ait compris le contexte, la situation, pour mieux isoler les éléments saillants qui lui permettent de construire le sens. C'est un petit peu la même chose quand nous, par exemple, on va regarder une vidéo dans une langue qu'on maîtrise à peu près approximativement, une série, on va avoir du mal à comprendre, mais si on a les sous-titres, on arrive à comprendre. Ben, c'est un peu la même chose. Le fait d'avoir un support qui facilite peut aider l'élève à mieux comprendre le discours de l'enseignante. Donc il y a des spécificités d'ordre phonologique, mais il y a aussi des spécificités d'ordre syntaxique. C'est normal puisque l'oralité n'est pas la même chose qu'une forme écrite. Et pour un élève qui est apprenant, il va y avoir des difficultés liées à des structures comme le gérontif en modifiant. Ça, c'est peu étudié en début d'apprentissage. Au niveau de la phrase complexe aussi, lorsqu'un apprenant étudie la langue française au départ, il est plutôt sur des phrases simples. Or, toutes les explications qui sont données et qu'on peut retrouver dans l'extrait sont organisées à partir de phrases complexes avec des supports donnés dont les propositions principales ne sont pas toujours cohérentes avec la support donnée parce que Camille, elle est dans le dynamisme de la classe et parfois son discours évolue à des ruptures et elle change la façon dont elle allait organiser son discours. Donc il y a des difficultés d'ordre phonologique, d'ordre syntaxique et puis évidemment de façon très visible les difficultés d'ordre lexical. Alors par exemple, il n'est pas sûr que Youssef comprenne l'expression étape par étape et peut-être que même au niveau de l'écoute il entend tape mais peut-être qu'il n'arrive pas à le restituer. Donc ça c'est tout à fait ordinaire puisque l'élève n'est pas en difficulté, en fait il est en cours d'apprentissage d'une langue seconde. Et là encore, ça fait partie d'un processus normal.
Donc on va reprendre l'analyse du registre verbal hein, en s'appuyant sur la présentation qu'en a fait Catherine. Hein. Sur l'axe horizontal, c'est le passage de la langue de scolarisation qui est le français vers la langue première ou vice-versa. Donc les difficultés qu'il peut y avoir pour passer d'une langue à l'autre. Donc là, effectivement, on voit que Youssef, même si au départ il disait qu'il n'avait pas vraiment de difficultés langagières, hein, dans l'entretien, il dit que ces difficultés ne viennent pas de la langue. En fait, lorsqu'on continue à écouter cet entretien, on s'aperçoit qu'il nous dit qu'il comprend mieux quand même lorsque c'est sa mère qui explique en langue première, donc avec cet aspect sécurisant hein, de la langue première, et puis le fait qu'il la comprend mieux. Et après, il va y avoir comme ça des expressions qui sont mises à valeur et qui montre qu'en fait, Youssef n'a pas compris certaines expressions du langage de scolarisation, du langage scolaire. Et on peut se dire que si ces expressions-là ont échappé à sa compréhension, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Donc Catherine citait le cas de étape par étape, que Youssef n'a pas compris. Et par contre, dès qu'on le lui traduit dans la langue première, là, il n'y a plus de souci, il comprend très bien ce dont il s'agit. Donc là, on voit le problème qu'il y a du fait de l'utilisation de la langue de scolarisation. Il y a un autre exemple aussi dans l'entretien, puisque à un moment, la personne lui demande « Pourquoi tu n'as pas réagi ?» lorsque l'enseignante a demandé « Tout le monde a fait l'exercice 1 ?» Et en fait, on s'aperçoit que Youssef avait cru qu'on lui demandait d'écouter ce que l'enseignant allait dire. Donc, il n'avait pas compris le sens de la question. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a comme ça tout un tas d'expressions qui appartiennent au langage scolaire ou alors au langage usuel que l'élève allophone ne perçoit pas. Et ça va mettre des obstacles, du coup, dans le suivi du cours. Il y aurait certainement aussi des exemples de difficultés dues au langage mathématique, qu'il a certainement plus de difficultés à comprendre dans la langue de scolarisation, même s'ils n'apparaissent pas de manière aussi visible dans l'entretien. Alors, une autre difficulté aussi qu'on voit au sujet d'un petit passage très emblématique de la séance, c'est le moment où l'enseignante lui demande combien font plus 2, plus moins 3. Donc l'enseignante lui demande ça. Et Youssef répond tout d'abord, je crois qu'il répond tout d'abord 11, puis 15. Alors là, au début, cela surprend, parce qu'on se dit comment est-ce qu'il a pu trouver 11 et 15 avec 2 et 3, voilà. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est parce qu'il ne s'est pas appuyé sur ce que l'enseignante était en train de dire. Il a changé de registre. Il est passé dans le registre symbolique numérique et il est en train de regarder l'expression que l'enseignante est en train de lire. Donc comme le registre verbal ne lui suffit plus, il passe dans le registre symbolique numérique, il lit l'expression. Et en fait, sur l'expression qu'il a écrite, il y a un symbole qui est mal écrit, son moins est mal écrit, on dirait que c'est un 1. Et donc sur son expression, on dirait qu'il a écrit plus 2 plus 13. Et là, du coup, on comprend mieux comment il arrive à des résultats comme 11 ou 15. Voilà. Et donc, ça montre comment l'élève, spontanément, quand un registre n'est plus suffisant, eh bien, il essaie de se raccrocher à un autre registre avec plus ou moins de succès. Voilà. Donc, ça, c'était pour les difficultés dues à l'axe horizontal à l'intérieur du registre verbal. Maintenant, on va regarder l'axe vertical, donc du schéma, donc les différents types de langage. Et notamment, on va regarder le langage mathématique, et le langage scolaire et le langage usuel, tel que l'enseignante les utilise. Parce qu'on s'aperçoit que l'enseignante elle-même n'est pas toujours dans le langage mathématique. Donc un exemple, lorsque elle veut faire l'opération à Youssef, elle lui demande quel est le plus grand nombre. Alors en fait, pourquoi elle lui pose la question? Parce qu'en fait, pour additionner deux nombres relatifs, il faut trouver le nombre qui a la plus grande valeur absolue, de manière à savoir quel va être le signe du résultat. Le problème, c'est que si on regarde sa question, quel est le plus grand nombre? Là, elle n'est pas dans le langage mathématique. Elle est vraiment dans du langage usuel. Si elle était dans le langage mathématique, elle dirait quel est le nombre qui a la plus grande valeur absolue ou quel est le nombre qui a la plus grande distance à zéro. Alors, on peut être surpris qu'elle utilise cette expression-là au lieu d'une expression qui soit rigoureusement mathématique, surtout qu'apparemment, Youssef connaît l'expression, le nombre, la distance à zéro d'un nombre. Il connaît cette expression puisque l'enseignante le réutilise plus tard. Donc, il doit la connaître, mais l'enseignante n'utilise pas. Pourquoi ? Eh bien, en fait, on peut voir là un phénomène de refoulement didactique. Alors, qu'est-ce que c'est que le refoulement didactique ? C'est quand un enseignant s'auto-censure plus ou moins consciemment, c'est-à-dire qu'il refuse plus ou moins consciemment d'utiliser l'expression réellement rigoureuse sur le plan mathématique parce qu'il craint que ses élèves ne la comprennent pas. Et donc, il va utiliser une autre expression plus accessible, mais qui, du coup, n'est pas parfaitement rigoureuse et peut conduire à des contresens ou à des réponses erronées. Voilà. Donc ici, il y a quand même un risque de conduire à une mauvaise interprétation de la part de l'élève. Et puis quand plus tard, eh bien, il va y avoir un autre type de tâche qui va être abordée, hein, comme la classification des nombres relatifs, et qu'il va falloir effectivement de se demander quel est le plus grand nombre parmi la liste de nombres qui sont proposés, eh bien là, il va falloir savoir que le plus grand nombre, c'est forcément un nombre positif. Donc, voilà, une interprétation différente de cette expression. Donc, on voit les difficultés que ça peut poser pour l'élève si une même expression change de sens. Voilà, donc ça, c'était pour illustrer un petit peu les difficultés qu'il pouvait y avoir à l'intérieur même du registre verbal, du fait des différents types de langage qu'il y a, surtout pour les élèves allophones, puisqu'il y a donc cette difficulté qui s'ajoute, qui est due à la différence entre la langue de scolarisation et la langue première, et comment ça peut poser des difficultés supplémentaires pour eux, en plus des difficultés dues aux différents registres.